Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour chers lecteurs et chers auditeurs. On espère bien que vous êtes les deux à la fois. Alors, cette semaine, une rencontre avec une bibliothèque. Tout récemment, nous sommes allés rencontrer une bibliothèque anglophone, hein, avec l'association FOL, Friend of Anglophone Library. Oui, library, c'est bibliothèque, hein, en anglais. Et puis, Montpellier est une ville très riche. Il n'y a pas que une bibliothèque anglophone, il y a aussi une bibliothèque italienne, italophone, faudrait dire peut-être. Voilà. Et c'est notre collègue collecteur François Chabot. Bonjour François.
Bonjour Marc.
Qui est allé il y a quelque temps à voir des voisins de la radio, hein, avec l'association Dante Alighieri, et qui a rencontré un bibliothécaire.
C'est pas un bibliothécaire qui est interviewé, c'est Paola Casadei qui est écrivain. Traductrice et qui est en charge de la littérature au sein de la société Dante Alighieri.
Voilà, alors, découverte de la bibliothèque du centre Dante Alighieri à Montpellier.
Bonjour, nous sommes à la Dante Alighieri, le centre culturel italien à Montpellier. Rue Sainte-Ursule, que vous ne pouvez pas manquer, en face de la Cité internationale de la danse. Voilà, c'est un lieu très intéressant et il y a une magnifique bibliothèque. Pour en parler ici, Paola. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Paola Casadei et je suis la prof de littérature de la Dante Alighieri depuis l'année dernière. Bonjour.
Bonjour. Alors, il y a des livres en français, des livres en italien,
oui.
Des livres bilingues, des nouveautés aussi.
Il y a aussi des nouveautés de plus en plus, surtout parce que ça fait partie de mon travail depuis l'année dernière. J'ai vu que, à part étudier la littérature, les participants à mes cours et les membres de la Dante Alighieri aiment beaucoup lire aussi les nouveautés. Donc, je m'en occupe de plus en plus. Et justement, le week-end, j'étais à Bologne. Je suis allée dans une librairie et j'ai amené avec moi 12 ou 13 livres qui font partie des nouveautés très intéressantes. Toutes des suggestions des libraires que j'ai beaucoup aimées.
L'édition italienne est assez dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même des grands éditeurs italiens qui sont reconnus dans le monde entier.
Oui.
Et il y a à foison des auteurs, de nouveaux auteurs qui apparaissent chaque année.
Oui, 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 il y en a chaque année. Il y a toujours les grands éditeurs, et c'est toujours très difficile pour les jeunes de se faire publier par eux. Mais c'est vrai qu'à travers les agences littéraires aussi, il y a les plus jeunes éditeurs, les plus valides, qui se font publier vraiment chez les plus gros. Il y a aussi un numéro énorme des petites maisons d'édition. Et donc, oui, je trouve que c'est assez dynamique. Pour la publication et l'écriture, c'est très dynamique. En Italie, le problème, c'est qu'on ne lit pas trop. Oui. Il n'y a pas beaucoup de lecteurs, mais beaucoup d'écrivains.
Les écrivains sont lecteurs et en fait, ils sont lus. Les oui. Écrivains sont lus par d'autres écrivains.
Exactement.
Oui, ce qui en fait, ça demeure en fait une habitude aussi traditionnelle. Mais ceci dit, à la différence, à mon avis, en France, on lit, mais on ne connaît pas par cœur d'énormes pans de la littérature française.
Ah, d'accord.
Alors qu'en Italie, la comédie, le Pétrarque, ou Leopardi sont toujours...
Ou Manzoni. Il y a des livres qui font partie des matières d'école. Donc, il y a vraiment Dante Alighieri même, ou Alessandro Manzoni et I Promessi Sposi, donc Les Fiancés, sont des livres qui sont vraiment encore étudiés à l'école. Pas seulement un peu lus ou suggérés, mais on lit en entier des œuvres. Mais pour le reste, je pense que c'est un peu... peut-être aussi un peu comme ici en France. Hein.
Oui, mais cette mémoire orale de... Enfin, l'oralité n'est pas fameuse en France.
Quand même. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ok. Et le système scolaire italien, je le connais de moins en moins parce que maintenant, ça fait vraiment beaucoup d'années que j'habite à l'étranger. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il y avait cette tradition.
Alors, parmi cette belle bibliothèque de la Dante Alighieri, y a-t-il des auteurs que tu veux mettre en avant, notamment parce que le fond est riche de leurs œuvres, donc savoir...
Ben, je pourrais nommer plein de choses. Par exemple, dans mes cours, j'avais parlé déjà des auteurs comme Italo Svevo et Luigi Pirandello. Et donc, avec ces, par exemple, Pirandello, avec... toute sa théorie aussi sur l'humorisme et pas seulement sur ce qui est ridicule, mais vraiment, il a écrit un essai sur l'humorisme. Et Italo Svevo, donc, qui a été influencé déjà par Schopenhauer, et donc il a commencé à écrire des romans très psychologiques comme La conscience des Zénons. Donc, moi, je suis partie de là. Après, il y a beaucoup, beaucoup sur le néoréalisme, l'époque de la guerre ou entre deux guerres. Donc, Alberto Moravia, Les Indifférents et beaucoup d'autres livres. Ici, il y en a vraiment beaucoup. Mais aussi, dans cette époque, Giorgio Bassani et Il Giardino dei Finzi Contini, Le Jardin de Finzi Contini. C'est très, très, très connu. Et après aussi, Buzzati et Le Désert des Tartres, Pratolini. Des Tartares. Oui. Et Pratolini, donc Metello et Les Ragazze di San Frediano. Il y a beaucoup, beaucoup de livres aussi sur ça. Et puis, il y a Mario Tobino. Et il y a beaucoup, naturellement, de Italo Calvino qui oui. est... chaque livre, c'est un chef-d'œuvre. On en a ici, à propos de ça, en italien, mais on en a aussi en français. L'année dernière, j'avais fait étudier, par exemple, les courtes nouvelles de Marco Valdo. Et là, c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement Il Sentiero dei Nidi di Ragno, donc son premier livre qui parle encore de la guerre, mais c'est déjà dans les années 60, donc les années du boom économique, mais aussi quand il y avait encore une grande crise, une grande pauvreté. Et donc, c'est l'histoire de Marco Valdo, de toute sa famille avec beaucoup d'enfants. Et c'est un dessin... de l'Italie de l'époque, qui est vraiment magnifique. Donc, et à part ça, bien sûr, après, il y a encore les années 40, les auteurs des années 40. Donc, par exemple, déjà Stefano Benni. Ici, il y a tout de Stefano Benni, qui ne fait pas seulement rire. On a des lectures très différentes qu'on peut faire de ses livres, parce que, oui... en surface, on a la partie qui fait rire et sourire, mais il peut être vraiment très profond. Et il a été invité ici en 2016, il était présent à la Comédie du Livre. Et en effet, c'est un auteur qui a eu un énorme succès. Et jusqu'après lui, comme on a déjà vu Tabucchi, et on vient de voir les piccoli equivoci senza importanza, mais aussi Vassalli, qui a gagné des prix avec La Chimère, et Henri De Luca. Et puis encore, par exemple, on a eu récemment Simonetta Greggio, une écrivaine italienne, mais qui écrit en français. Et son dernier livre s'appelle Elsa Mon Amour. Donc elle parle d'Elsa Morante, écrivaine qui a été pendant 40 ans femme, épouse d'Alberto Moravia. Et elle aussi, avec l'Isola di Arturo et la Storia, s'est fait connaître en Italie et dans le monde. Et aussi, la femme qui a passé 20 ans de sa vie avec Alberto Moravia, aussi Dacia Maraini. Dacia Maraini, ici abbiamo una bagheria et d'autres livres qu'on a déjà vus, en effet, dans mes cours de l'année dernière. Donc vraiment, il y a une énorme richesse d'auteurs hommes et auteurs femmes, jusque par exemple à... Je vous nomme deux très récents. L'année dernière, on a vu Tommaso Pincio, Il dono di saper vivere. C'est un livre très intéressant. Lui, il est déjà présent dans les critiques des anthologies plus modernes parce que ça fait partie de la littérature des années 2000. Il est très considéré. Il parle beaucoup de Caravaggio. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on a, à part d'autres romans ou nouvelles, par exemple, celui-ci, Le difettose de Eleonora Mazzoni, publié toujours par Einaudi et qui a été traduit aussi en français. On l'a ici, même la traduction, ça s'appelle Les Fivettes. Donc, ce n'est pas seulement des polars, ce n'est pas seulement des noirs, mais ça, c'est vraiment, par exemple, de l'actualité parce qu'elle parle d'une vraie expérience romancée. D'une femme qui cherche à avoir des enfants et donc nous fait rentrer dans le monde de la fécondation in vitro. Donc il y a vraiment de tous les arguments et de tout le style et c'est une énorme richesse donc cette bibliothèque. Par exemple, on nommait avant Camilleri. Donc Camilleri qui a été traduit bien sûr en France et qui est passé aussi à la télé parce que Il Commissario Montalbano, c'est très très connu, ça fait je pense 20 ans qu'il va en Italie et il continue à le répliquer. C'est...
Il est décédé cet été.
L'auteur
est mort. Montalbano, ça fait référence à Manuel Vázquez Montalbano, c'est Pepe Cavallo. Non, du détective. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est un roman sur la société, en fait.
Oui, absolument, sur la société. C'est basé, bien sûr, en Sicile. Mais souvent, dans les romans aussi que je choisis pour mes cours, il y a toujours une description d'une partie de l'Italie pour faire connaître l'Italie aussi en dehors de l'histoire du polar que nous disons le giallo, à d'autres histoires. C'est toujours très important de lire le fond de l'histoire et donc, grâce à ça, on pourrait connaître vraiment la littérature des différentes régions d'Italie. Et,
Alors, en plus, il met des mots siciliens dans
ce roman. Ouh, trop, et, il en met trop.
Mais, c'est Leonardo Sciascia qui l'avait encouragé à écrire.
Oui. Oui, c'est vrai. Et en effet, c'est pas un dialecte, c'est presque vraiment comme une langue. Et même des Italiens ont beaucoup de mal à le lire parce que... Oui, après, on a commencé à connaître, il y a toujours des mots qui reviennent.
Oui, et puis dans Mais le contexte, finalement, on finit par cerner un peu le sens.
Oui, c'est une langue très particulière, mais il est lu... ils vont énormément et
bien donc plus, hein.
Ah oui, c'est très 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 connu et le sera toujours.
J'ai vu aussi que la bibliothèque, je sais pas si elle est l'œuvre complète, mais quasiment de Cesare Pavese.
Oui, il y a beaucoup aussi de Cesare Pavese
qui est mort très jeune, mais qui a beaucoup produit.
Oui. Pavese est très aimé en Italie, mais j'ai vu aussi beaucoup vraiment ici en France.
En France aussi.
Oui. Oui. Il y a aussi Pasolini. Il y a, par exemple, un peu plus léger, l'année dernière, on a lu Andrea Vitali, qui a écrit énormément d'histoires. Il a un langage très, très simple et sympa. C'est comme s'il racontait toujours des histoires de son quartier, par exemple. Et là, c'est la zone du lac de Côme. Il y a aussi les œuvres de Fenoglio. On a lu quelque chose de très intéressant de Tiziano Scarpa. C'est un livre qui s'appelle Stabat Mater. On en a beaucoup de Stabat Mater. Ça, c'est une histoire basée donc à Venise. Et c'est lié aux quatre saisons, à la musique des quatre saisons, les quattro stagioni de Vivaldi. Oui. Non, il y a toute une partie aussi de toutes les anthologies des livres anciens qui sont très beaux. Et il y a beaucoup, il y en a beaucoup aussi qui sont traduits, des traductions françaises. Et donc, j'ai vu que, par exemple, même pour, chez les participants à mes cours, même si on suit la littérature, on écoute qui c'était l'auteur, comment c'était les livres, pour le lire en entier, il y a qui choisit la traduction française. Parce qu'en effet, pour comprendre chaque nuance, chaque mot, il faut peut-être une connaissance de l'italien assez profonde. Et donc, je comprends que quelque chose, on préfère la lire aussi dans sa propre langue pour avoir, pour comprendre vraiment chaque mot.
De toute façon, dans Alighieri de Montpellier, il y a tous les niveaux, de toute façon.
Il y a tous les niveaux. Soit les livres, soit les cours. Oui, il y a vraiment pour tous les niveaux. Et il y a beaucoup de gens ici, entre stagiaires et enseignantes de langue, de littérature, qui sont prêts et disponibles à suggérer un type de lecture pour chaque niveau. Donc, oui. C'est possible vraiment de choisir et s'amuser. Parce que vraiment, il y a une énorme richesse. Moi aussi, chaque semaine, j'emprunte des livres parce que je n'ai pas tout lu. Et c'est à chaque fois une très belle surprise.
Oui, parce qu'en fait, les livres qui atterrissent ici ne sont pas fortuitement comme cela. Ils sont passés dans des mains qui les ont lus et qui les ont recommandés. Donc,
oui.
Ils ont passé plusieurs seuils.
Il y a quelqu'un, j'ai vu, qui fait des dons. Donc... on a des livres qui sont donnés par des lecteurs ou par des gens qui, par exemple, doivent déménager. Et donc, vraiment, c'est selon les goûts de beaucoup de gens et c'est pour ça qu'elle est si complète.
Si complète, c'est ça, oui, avec, dans tous les genres littéraires, et c'est ça qui est vraiment très bien.
Oui. Vous voyez, il y a aussi une section qui dit « socio-culturel politique ». C'est là aussi, c'est une belle section. Et donc il y a pour chaque type il y a des essais, des romans, il y a un peu moins de poésie peut-être, mais il y a quelque chose aussi de poésie.
Et on voit notamment dans les essais, dans le culturel politique, des livres qui sont souvent épuisés en France qu'on ne peut plus retrouver.
Ah d'accord.
Et donc c'est très intéressant pour ça, les bibliothèques, parce qu'on trouve des livres qui ne sont pas réédités. Indisponible,
c'est vrai. Et il y a
c'est ça le magique des bibliothèques, c'est
quoi les livres. Oui, c'est ça, exactement. Perdure. Exactement, oui. Donc, moi, je vous invite à venir visiter la bibliothèque et aussi la vidéothèque, parce que la cinéthèque, donc il y a aussi des très beaux films, donc venez vraiment visiter cette bibliothèque, parce que je pense que ça vaut la peine.
Ça vaut vraiment la peine, il y a pour tous les goûts et avec une exigence de qualité à chaque fois.
Oui, absolument, c'est la qualité avant tout, et aussi, vraiment, quelquefois, pour se distraire, pour se relaxer. Donc, on ne peut pas toujours penser étudier, lire des livres difficiles. Il y a donc vraiment aussi pour se relaxer et passer des après-midi en plein hiver devant la cheminée avec vraiment de beaux livres, je pense.
Avec le feu de la littérature et des mots.
Oui.
C'est bien. Quand on se couvre, à l'intérieur se forge des phrases de grâce à la lecture.
Oui.
Merci, Paola.
petite
nous éclairer, nous éclairer à propos de la bibliothèque de la Société Dante Alighieri.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'était donc une rencontre avec la responsable de la littérature de la bibliothèque de l'association Dante Alighieri, avec François Chabot qu'il a rencontré. C'était une rencontre qui avait eu lieu au mois de
novembre.
En novembre, voilà. Donc on ne l'a pas passé tout de suite. Ça y est, vous l'avez eu et maintenant vous n'avez plus qu'à vous rendre à la bibliothèque de l'association Dante Alighieri.
Rue Saint-Ursule, juste derrière le cité Agora de la danse.
Hein, donc en bas de la rue Université, vous descendez en bas de la rue Université, et puis c'est sur la droite si vous êtes en train de descendre. Alors on peut découvrir plein de livres en version originale, en italien. Et bien du coup, pour terminer cette émission, François Chabot, grand amateur de littérature italienne, qui lit l'italien dans le texte, va vous proposer quelques lectures à faire.
Alors oui, ce sont quelques lectures de très grands auteurs italiens qui ne sont pas forcément encore très bien produits en français. Ils ont tous une partie des œuvres de leur œuvre en français. Je vais les présenter très brièvement en italien. L'Incrati, Antonio Moresco. L'Incrati è un romanzo gigante dove il lettore sta fra vita e morte perché sta nel tempo che viene dopo e che viene prima, perché ha dimenticato sua realtà. Meditazione sopra le creazioni letterarie, anche sopra lo vivo che perdura della morte, senza sapere che viene prima. Riflessione sopra dove siamo, perché l'immagine di infanzia è sottorante. E al finale la permanenza degli Incrati nel mondo. La strana lingua di Antonio Moresco è come una musica di grande frase con note ossessionali, leggere di più cercando il centro vitale e la realtà esistenziale. Un capolavoro.
Alors, tu peux nous donner
Antonio Moresco,
la teneur en français.
Ce sont des livres de 1000 pages. Donc, c'est toute une atmosphère, tout un style littéraire avec... au niveau ponctuation et tout ça, c'est tout à fait différent. Voilà. Donc c'est un très long souffle. En fait, il a eu l'expérience du silence pendant des années. Enfin, il a un vécu très particulier qui lui a permis de faire des trilogies à 3000 pages.
Voilà, oui. Alors, c'est la grande œuvre d'Antonio Moresco, parce qu'on a pu le découvrir en France il y a quelques années avec la traduction chez Verdier de le texte, leur version originale, c'est La Lucina, la petite lumière. Et puis il y a eu Fiabe d'amore, Fable
c'est
d'amour.
Ça, ce sont deux œuvres qui sont traduites en français.
Et puis Incendiati, Les Incendiés aussi. Tout ça a été publié par Verdier. Hein.
Voilà. Ben, donc en fait, c'est très différent parce que son œuvre la plus marquante, c'est celle où il y a tout son style qui apparaît sur la création et l'incréation, enfin, c'est plein de nuances, donc ça ne peut pas se faire en quelques...
Quelque chose à découvrir, se plonger, et puis là, on en a pour quelques semaines, voire quelques mois, pour se plonger dans cette œuvre assez monumentale et considérée comme un grand de la littérature italienne aujourd'hui.
Oui.
Hein. C'est un monsieur âgé, il doit avoir 80 ans à peu près, ou quelque chose
comme
ça. Il
était là, à Montpellier, pendant la Comédie du Livre, il y a quelques années. Mais oui, il est assez âgé, mais il a une vie qui est très réglée, sans excès, donc je pense qu'il tiendra le... Et je voulais présenter trois petits romans très courts d'auteurs actuels aussi, qui étaient venus à la Comédie du Livre. Et là, ce sont des petits livres d'une centaine de pages, donc c'est très différent. Et puis ça montre la diversité territoriale et culturelle de l'Italie. Donc il y a l'incontro di Michela Murgia. L'incontro si legge come un sogno, un viaggio nella Sardegna, 30 anni fa. L'infanzia nella isola, con un piacere molto presente di identità sarda. Per noi è cosa come una vita nuova, un'esperienza di fraternità e di umanità. Una gioia che non si dimentica, un meteoro del tempo. Allora, il paruscia in Adimile, il est disponible en traduction française.
Mmh.
Et sinon, il y a un très beau livre, Mi riconosci, d'André Bajani.
Storia dell'amistà, della tenerezza, della perdita, scritta con la prosa poetica come brevi capitoli, la beltà che sopravvive a tutto. Tre linee solo sopra un'opera per guardare una volta di più nel cuore. En fait, la littérature italienne est très, très riche. Il y a vraiment...
Alors, tu peux peut-être me dire quand même la teneur de ce que tu viens de nous. Parce que tous nos éditeurs ne comprennent pas couramment l'italien.
Oui, en fait, je ne sais pas si c'est un... Ça ne va pas être un hasard, il n'y a pas de hasard vraiment dans ce cas-là. Mais il y a énormément de livres italiens qui ont pour source l'amitié ou l'enfance, le retour à un vécu qui n'est pas forcément autobiographique, mais qui c'est une fiction, comment dire, avec des faits. C'est pas que les Italiens qui font ça, mais Philippe Roth le fait aussi avec des événements qui se passent, qui sont importants pour la vie des personnages. L'importanza dei luoghi comuni, Marcello Foïs è un grande auteur qui a beaucoup de livres traduits maintenant en français. Et là, presenta la difficoltà di vivere insieme, quelle che possono dire o no, quelle dove si sbaglia qualcuno nella vita, una meditazione di lettura leggera e facile, ma con una forza incredibile.
Oui, donc c'est pour dire là, une lecture facile, légère, mais d'une force incroyable.
Voilà, il y a beaucoup de caractère, voilà, ça, donc c'est bien, ouais.
Voilà, alors oui, donc la littérature italienne, tu nous en proposes quelques exemples. Hein, ce n'est pas que Italo Calvino, Elsa Morante, et ainsi de suite.
Il y a
beaucoup de choses à découvrir, c'est une littérature très vivante. Dans l'entretien, vous parliez notamment de Stefano Benni, qui est un auteur aussi à lire, qui est bien traduit chez Actes Sud, si j'ai bonne mémoire. Il y a Marcello Foïs, que tu viens d'évoquer. Et puis... donc plein d'auteurs à découvrir. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter les références, vous inquiétez pas. Il y a des pages consacrées à Lecture Partout sur le site de la radio, de Divergence FM, et nous allons vous mettre tous les détails pour que vous puissiez retrouver et puis vous orienter dans les bibliothèques du centre Dante Alighieri.
Si nous avions un petit peu de temps, j'aimerais faire un hommage à Pascal Gabellone.
Rapidement.
Il nous a quittés en mai 2015, mais demeure la trace qu'il a laissée à ses proches, ainsi qu'à ses collègues, ses élèves, ses lecteurs. Son art consommé de la tendresse, de la finesse, de son appréhension du monde. Une sensibilité artistique que l'on retrouve dans son œuvre poétique et critique, que ce soit dans la blessure du réel, où l'artiste est à l'épreuve du monde, expérience charnelle et parfois tragique, où l'art permet la cicatrisation et la spiritualité, la sublimation, ou que ce soit dans l'inhabité, où l'on retrouve la douleur, peu à peu éloignée, où la distance est absente et l'absence sont apprivoisées. Il est notable que sa dernière publication à ce jour, et c'est en italien, publiant Terem, fra terra e cielo, marque la résidence du poète sur terre, puis au ciel. Ses compagnons littéraires de vie, Ungaretti, par l'expérience vécue transmise, Paul Celan, pour la catharsis et l'art en marche, Mallarmé, pour l'abstraction restreinte, compagnie jamais défaillante, qui lui permet d'œuvrer sur le poétique, quête et mode de vie adopté au quotidien. C'est avec un regard sur les confins, sous-titre de fra terra e cielo, que son attention est portée aussi sur les présences splendides de Blanchot et Leopardi, où l'écriture est un champ d'exploration et un champ salvateur. L'ultime demeure, il l'a trouvée, après cet écart entre terre et ciel, si loin et si proche dans la teneur sensible, topos de toutes les réconciliations et avec la sérénité dans la grâce.
Voilà, alors, recommandation finale, allez au centre Dante Alighieri, explorez le fond de la bibliothèque, et puis meilleure façon de découvrir la culture italienne. Vous n'êtes pas obligé de lire l'italien, puisqu'il y a des livres aussi traduits en français. Merci François de cette rencontre avec nous permettre de découvrir cette bibliothèque. Merci Rongemaille à la technique, et à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.